C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Que pouvons-nous faire, vous, moi, pour aider l'humanité à assurer sa survie sur une planète qui chaque jour nous rappelle que nous la surexploitons? C'est vrai que l'on se sent impuissant, seul, dans notre quotidien, face à l'ampleur des changements climatiques, aux conséquences de la fin du pétrole ou de la disparition accélérée de la biodiversité. Pourtant, quand nous nous organisons, nous sommes capables de bouleversements phénoménaux, comme la fin de l'apartheid ou la chute du mur de Berlin, dont l'une des causes communes fut la mobilisation non violente des populations. Alors, pas question ici de vous inciter à la révolution, mais simplement à prendre conscience que nous avons tous un rôle à jouer et surtout que la solidarité est certainement la clé. C'est en tout cas votre conviction. Laurent Muratet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la communication d'Alter Eco, qui est une PME de 50 personnes engagée depuis 1999 dans la distribution de produits issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Vous travaillez avec combien de pays aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on travaille à peu près 40 coopératives dans 25 pays.
Toujours avec cette logique de rétribution juste pour les agriculteurs des pays du Sud.
C'est ça, selon le principe du commerce équitable, donc un juste de couvrir au moins les frais de production pour un producteur et plus pour avoir une vie digne. Et aussi selon les principes de l'agriculture biologique, parce que l'idée c'est de respecter les hommes, mais aussi l'environnement.
Alors c'est sans doute ce travail quotidien avec les agriculteurs du monde entier qui vous a amené à publier avec Étienne Godinot un nouveau monde en marche vers une société non violente, écologique et solidaire. C'est publié aux éditions Yves Michel. Alors c'est 400 pages d'interviews de chercheurs, de penseurs et pas des moindres hein, puisqu'il y a Edgar Morin, Stéphane Hessel ou encore Pierre Rabhi, mais aussi des porteurs de projets qui agissent concrètement sur le terrain et qui partagent tous cette idée que la non-violence finalement c'est un mode de mobilisation qui pourrait permettre de répondre aux défis du 21e siècle. Alors notamment aux défis écologiques. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par non-violence ?
Alors c'est vrai que ce n'est pas un mot évident, parce qu'on exprime quelque chose par la négation. Et en fait, il a au moins le mérite de dire que notre monde aujourd'hui est particulièrement violent. Et donc le mot non-violence, c'est pour dire finalement entre cette violence et le silence, il y a peut-être une autre voie qui serait la non-violence, c'est-à-dire de pouvoir agir de manière non violente pour se faire entendre, en fait.
Alors, quand vous dites notre monde est violent, la violence que l'on connaît, qui est la plus facilement identifiable, c'est la violence physique, mais il n'y a pas que celle-là.
Oui, c'est vrai qu'il y a des violences qu'on peut voir tout de suite, comme la violence physique, la violence économique dans les pays du Sud, pour les gens qui sont vraiment exclus. Et puis après, pour parler de nos sociétés, il y a une violence qui est beaucoup plus latente et peu exprimée, qu'on peut subir, et qui vient en grande partie de la pression économique qu'on subit aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'elle est plus dure à exprimer, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour la canaliser.
Ouais, alors vous pensez, par exemple, c'est ce qui est écrit dans le livre notamment, le conditionnement des consommateurs qui ne se rendent plus compte, ou la mainmise des multinationales sur les ressources naturelles, tout ce qui est nos biens communs qui nous ont été confisqués. En fait, tout ce système-là, on s'y est habitué, donc pour nous, ce n'est pas une violence.
C'est ça. Oui, exactement. Et puis de manière aussi un peu plus large, je pense qu'il y a une violence qui est liée au manque de sens. C'est dans la plupart des métiers, le fait de devoir souvent travailler pour un but uniquement économique et d'y passer toute son énergie.
Là, vous racontez un peu votre histoire.
Un petit peu, oui.
Parce que vous n'avez pas toujours été directeur de la communication et du marketing chez Alter Eco.
Oui, oui. Et c'est vrai que j'ai fait un bac littéraire, je m'orientais plutôt vers des études de philosophie. En fait, je voulais voyager, donc j'ai choisi de faire des études de commerce international. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé dans des grosses sociétés de l'agroalimentaire, puis de plus en plus petites. Et ce qui m'a très vite manqué, en fait, dans mon travail, c'était le manque de sens. Et si on se met à questionner ce manque de sens, on est un peu déviant et du coup un peu exclu de système, donc il faut mieux en partir.
Alors ça, c'est pour la démarche individuelle. Après, on parlait de non-violence, évidemment. Les grandes actions de non-violence qu'on a en tête, c'est par exemple la marche du sel de Gandhi en 1930, ou le boycott des bus de Montgomery, qui était lancé par Martin Luther King en 1955. C'est vrai que ces mouvements ont été efficaces. Est-ce que, selon vous, c'est ce genre de mouvement qui peut changer la donne aujourd'hui, notamment par rapport aux enjeux écologiques ?
Alors c'est sûr que dans les pays du Sud, là où il y a des enjeux extrêmement forts, et on pourra prendre l'exemple de l'Inde, où il y a des gens qui sont privés de leurs terres, oui, il y a des gens qui sont tellement privés finalement du minimum vital que soit ils se taisent, ils perdent leur dignité, soit ils prennent les armes, ça existe aussi, hein, et du coup ils tombent un peu dans une forme de terrorisme, ou alors ils décident de dire finalement j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin de vivre, et ce besoin en face n'est pas respecté. Et pour me faire entendre, je vais venir réclamer ce qui m'est dû quelque part. Et pour ne pas donner finalement une arme à l'autre, je vais le faire de manière non violente. Tout à l'heure, on posait la question de la non-violence. Au-delà du fait qu'on dit la non-violence, c'est agir autrement que par la violence, c'est aussi une réorganisation de définir dans un cas le besoin n'est pas respecté. Comment on s'organise pour le porter de manière plus massive et obliger les personnes à respecter nos besoins.
Alors, c'est ce qui s'est passé en novembre dernier en Inde, hein, avec la marche des sans-terre. Et l'homme qui est à l'origine de ce mouvement s'appelle Rajagopal. Je l'ai rencontré lors de son passage à Paris. Il nous explique pourquoi il a fondé Ekta Parishad en 1991 et comment son association est devenue de manière non violente un interlocuteur incontournable pour le gouvernement indien sur la question des paysans sans-terre.
See, we found that the poor people of India.
Donc nous avons constaté que en fait les pauvres en Inde étaient de plus en plus résignés à leur sort, puisqu'ils voyaient leur terre être prise par les grandes entreprises, etc. Et en fait, ils se résignaient à partir de leur terre pour aller dans les bidonvilles et les villes. Et donc, l'analyse qu'on a faite, c'est que c'était pas normal, cette situation, et qu'en fait, il était important de passer dans les villages pour les aider à s'organiser, pour résister à cette évolution, et qu'il ne fallait pas se résigner au fait que les terres allaient être prises par des entreprises pour faire de l'argent, mais qu'on pouvait les aider à résister à ce phénomène.
In such situation, there are two options for people: either be silent or be violent.
Donc en fait, finalement, face à cette situation, vous avez deux options: soit le silence, soit la violence. Et en fait, le rôle d'Ekta Parishad, c'est d'aider les jeunes, notamment, à comprendre qu'en fait, il s'agit de deux solutions extrêmes: soit laisser faire finalement et abandonner. Soit prendre les armes, ce qui n'est pas non plus vraiment une option, et donc en fait il y a une solution, une troisième voie moyenne, qui est celle de la non-violence active, et donc c'est là qu'intervient Ekta Parishad pour organiser les villageois et arriver à être une force d'opposition à ce phénomène d'accaparement des ressources par les grandes entreprises. Du coup, nous aujourd'hui nous sommes des millions de villages dans plus de 11 États indiens.
Et comment s'explique ce phénomène de l'accaparement des terres, ou en tout cas du fait que des gens se retrouvent chassés de leur terre? Comment ça s'explique, ça?
See, many companies are advancing into villages. In India, about 70% people are on land.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 70% des Indiens aujourd'hui qui vivent de la terre, qui la travaillent. Et en fait, les compagnies donc industrielles, elles sont aussi à la recherche de ces mêmes terres, donc de la terre en soi, de l'eau, de la forêt, puisqu'en fait, ce sont les trois ressources qui peuvent être exploitées pour derrière faire un profit. Et finalement, on a une situation qui est presque une situation de guerre entre deux groupes qui s'opposent et qui veulent la même chose, à savoir ces terres. Mais c'est une situation qui n'est pas du tout limitée à l'Inde. C'est aussi le cas dans certains pays d'Amérique latine. C'est le cas en Afrique. Et en fait, ce que disent ces gens, c'est que cette terre, c'est leur outil de travail. Il n'y a pas de raison qu'ils le perdent. Ils disent finalement, aujourd'hui, nous, on a le choix face à ces multinationales. On a le choix de partir dans les bidonvilles, on l'a dit. On a le choix de résister par la violence, on a aussi éventuellement le choix de se suicider pour tout perdre. Il n'y a pas de raison qu'on en arrive à cette extrémité-là. On doit pouvoir s'organiser pour préserver notre terre et notre manière de vivre.
Est-ce que vous pouvez nous donner un cas concret, par exemple, que vous avez observé et qui a engendré cette situation?
See, there are many companies. Okay, take the example of a company called POSCO, coming all the way from Korea to the coastal line of Odisha.
Alors, deux exemples. Par exemple, une compagnie coréenne qui s'appelle Bosco, qui donc est venue dans un état indien de la côte, qui s'appelle Inorissa, voilà, donc une compagnie coréenne, donc qui a essayé d'obtenir 4400 hectares de terre pour exploiter des minéraux. Et donc la population locale s'oppose depuis déjà des années à cette expropriation, puisque aujourd'hui ils travaillent cette terre et donc ils ne souhaitent pas qu'elle soit accordée à cet industriel. Un autre exemple, c'est une compagnie anglaise qui s'appelle Sterilite, qui a changé son nom pour faire plus indien en Vedanta, pour la partie indienne, qui cherche à exploiter une montagne de bauxite. Voilà, et donc là, pareil, la population locale dit, nous, c'est notre terre ancestrale, c'est de là qu'on vient, c'est de là qu'on tient notre nourriture, qu'on tire certains médicaments, etc. C'est notre lieu de vie. On ne souhaite pas aujourd'hui que ces terres nous soient retirées. Il y a des centaines d'autres cas comme ça, des compagnies multinationales certes, mais aussi des compagnies indiennes qui s'étendent dans d'autres États, et ça crée des situations de violence extrêmement fortes avec des gens qui peuvent être poussés jusqu'au suicide face à cette pression des entreprises pour récupérer les terres. Et donc c'est aussi face à cette violence que c'est une forme d'organisation en face est nécessaire, parce que c'est seulement par une organisation un peu conséquente que les villageois arrivent à faire face et à s'opposer à cette expropriation.
See, when the British was ruling India, they made a law, and the law is called the Land Acquisition Act.
Il y a deux lois aujourd'hui qui sont très utilisées pour accommoder les intérêts des multinationales. Une qui est en fait une loi qui date de l'époque britannique, qui est donc de la loi sur l'acquisition des terrains, qui permet à l'État d'acheter tous les terrains qui lui paraissent utiles dans l'intérêt national. Or, aujourd'hui, c'est une loi qui est abusée, puisqu'elle est utilisée dans l'intérêt de tout le monde et de n'importe qui, que ce soit l'intérêt national ou pas. Il y a également une autre loi, qui est la loi sur les zones économiques spéciales, qui là aussi est utilisée de manière très forte pour créer des zones économiques un petit peu partout, pour accommoder les intérêts de ces entreprises internationales. Et donc, une fois de plus, ça crée en face une nécessité de s'organiser, puisque c'est que par une organisation un peu forte qu'on pourra avoir une action non violente qui permettra de résister et de permettre aux villageois de maintenir leur mode de vie et leurs outils de travail.
Alors justement, en 2007, vous avez fait une action, vous avez réussi à mobiliser 25 000 personnes pendant un mois pour une marche de 340 km entre Gwalior et dans le Madhya Pradesh et Delhi, New Delhi. Et vous avez renouvelé cette opération en novembre dernier avec encore plus de mobilisation. Combien y avait-il de personnes pour cette marche en novembre dernier ?
See, in the first march, there were 25,000 people. But to say, in 2006, 500 people marched all the way from Gwalior to Delhi.
Donc en fait, avant même la marche de 2007, il y avait une première marche en 2006 où 500 personnes avaient fait cette route déjà pour faire pression sur le gouvernement et lui rappeler l'importance d'agir sur ces problématiques de santé. Donc en 2007, il y a eu donc cette marche avec 25 000 personnes et qui a abouti effectivement à la promulgation par le gouvernement d'une loi sur les droits de la forêt et notamment pour les Adivasis, donc une population indienne. Et donc effectivement, suite à cette loi de 2007, 1,2 million de personnes ont aujourd'hui obtenu des terres. Donc c'est une réforme agraire. Cependant, ça ne suffit pas, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des Adivasis, donc ils ne sont pas concernés, et il y a encore 40% d'Indiens qui sont sans terre. Et donc là, cette marche, cette année, ça a été pour rappeler au gouvernement son obligation de continuer à avancer et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Combien de personnes ont donc participé à cette marche en novembre dernier ?
The total people involved were many, and they were involved for 3 years in terms of collecting 1 rupee every day.
Voilà, donc en fait, pour savoir combien il y avait de personnes, la réponse, c'est beaucoup. Puisque au-delà de la marche elle-même, il y avait en fait, ça fait 3 ans que les gens travaillent et se préparent à cette marche, en essayant par exemple de collecter 1 rupee par jour pour financer la marche, essayer d'avoir l'équivalent d'une poignée de riz par jour pour la famille qui reste au village pendant que certains vont faire la marche. Et donc, au final, ils avaient 100 000 personnes qui étaient prêtes à faire cette marche, mais le gouvernement a pris peur et leur a demandé en fait de réduire le nombre de participants avant de commencer à discuter. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont divisé le nombre par nous avons divisé le nombre par deux, donc pour avoir 50 000 marcheurs depuis Gwalior toujours. L'idée était même d'ailleurs qu'il n'y ait presque pas de marche, puisque normalement le gouvernement devait venir à Gwalior et signer un accord avant même le début de la marche. Auquel cas, il ne serait pas parti. Mais en fait, le gouvernement est venu et a fait une annonce seulement, mais n'a rien signé. Or, nous avons été un peu échaudés par ce qui était passé en 2007, où des choses avaient été promises mais pas réalisées. Donc là, la décision qui a été prise, c'est pas d'accord écrit. Dans ce cas-là, on marche. Donc la marche a débuté. Et donc, partie de Gwalior, nous avons fait 180 000 km jusqu'à Agra. Et là, le gouvernement a pris peur en fait, de ces 50 000 personnes qui marchaient sur Delhi. Et donc, ils sont revenus à la table des discussions avec un accord qui a été signé, du coup, par écrit, par le ministre. Et donc, nous pensons aujourd'hui qu'avec cet accord écrit, beaucoup de choses vont pouvoir avancer.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ?
C'est cet accord est so interesting, and I think it's not only for India.
C'est un accord qui est extrêmement intéressant et radical, et pas seulement pour les Indiens. Au contraire, c'est un accord qui peut être une grande chance et un modèle pour les pauvres partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, et pas seulement en Inde. Le premier point, c'est une politique de réforme agraire nationale qui doit indiquer des pourcentages des terres qui doivent être allouées à l'éradication de la pauvreté et un pourcentage de terres qui doit être alloué à l'industrialisation. Et ça, c'est fondamental, parce que ce qui se passe quand vous n'avez pas ce genre de politique, c'est qu'en fait, du coup, c'est 100% des terres pour l'industrialisation et il ne reste jamais rien pour l'éradication de la pauvreté et la réforme agraire. Donc ça, c'est un premier point qui est fondamental. Le deuxième, c'est qu'une loi devrait être passée dès que possible, selon laquelle, en fait, toute personne aujourd'hui sans toit aura le droit à une portion de terrain, ce qu'il appelle ce qu'on appelle les 10% d'hectares, en fait. Donc, c'est tout petit. Juste ce qu'il faut pour avoir une maison et un jardin. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aujourd'hui bénéficier à 22 millions de personnes en Inde. Donc, c'est quand même vraiment beaucoup de gens qui pourraient bénéficier d'une telle réforme. Ce sont des gens qui aujourd'hui vivent sur les bords des routes, sur les bords des rails, dans des bidonvilles. Et en fait, ce que ça va leur apporter, c'est vraiment ces trois choses fondamentales, c'est-à-dire c'est la dignité, c'est l'identité et c'est la sécurité. Et c'est ça ce que ce tout petit morceau de terrain peut apporter aux gens aujourd'hui, c'est ces trois choses fondamentales. Et donc, des éléments comme ça, il y en a 10 dans cet accord, qui sont tous extrêmement radicaux. Et donc, si tous sont mis en œuvre, ou en tout cas... sérieusement regardé et implémenté, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter un changement extrêmement important pour tous les Indiens.
The agreement is also speaking about protection of land of indigenous people.
C'est d'une part une provision pour la protection non seulement des terres des populations indigènes, mais aussi de leur culture et de leurs droits, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire qu'en l'absence de cette protection-là aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour ces populations de protéger leur mode de vie. Et aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est de donner un statut égal aux femmes par rapport aux hommes dans l'agriculture, justement. Aujourd'hui, ce qui se passe en Inde, c'est que la terre appartient aux hommes. Ce qui fait que, du coup, pour les femmes, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à des aides financières, à des outils de développement, alors même que ce sont elles qui, aujourd'hui, font une bonne partie du travail. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est mettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes. Et ça, c'est un changement qui est extrêmement important, mais qui peut servir de modèle aussi dans bien d'autres pays dans le monde.
Tout l'enjeu, maintenant, c'est que cet accord soit appliqué. On sait que... À chaque niveau, en Inde, il y a des problèmes de corruption. Est-ce que vous pensez que cet accord va être vraiment appliqué sur le terrain ? Vous y croyez aujourd'hui ?
See, we have given 6 months time to government of India. So we are going to review this process in March.
En fait, nous avons donné 6 mois au gouvernement pour mettre en place ces 10 promesses. Donc, il y aura de toute façon une revue de cet accord donc en mars. Et de toute façon, cette mise en place doit être faite par un comité conjoint avec 7 membres du gouvernement et 7 membres d'Ekta Parishad, qui devrait donc permettre quand même d'avoir une certaine main sur la mise en place de ces 10 promesses. Et ce qui fait qu'on est assez confiant sur la réalisation d'une bonne partie de ces promesses d'ici à mars. De toute façon, il y aura aussi une pression qui sera mise sur le gouvernement et sur les partis politiques en général, puisqu'en 2014, il y a de grandes élections en Inde. Et donc, l'objectif, c'est de faire de cette problématique de réforme agraire un élément central de ces élections sur le thème les gens qui ont un terrain iront voter, les gens qui n'auront pas de terrain n'iront pas voter, nous ne donnerons pas leur voix au gouvernement. Et donc, c'est vraiment faire en sorte que cette problématique de réforme agraire et de donner des terrains aux gens qui n'en ont pas devienne un élément fondamental de cette campagne pour les élections 2014. Mais vous avez raison, de toute façon, cette problématique de corruption et d'accaparement des terres est un grand problème. Donc, c'est pas un problème d'ailleurs seulement en Inde, c'est aussi une problématique en Afrique ou en Amérique latine. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'organiser par une action environnementale qui permette de s'opposer à ces phénomènes. Donc rendez-vous le 8 mars.
Merci Rajagopal.
Thank you. Merci beaucoup, beaucoup.
C'est Pas du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et merci à Marine Laurent pour la traduction. Laurent Muratet, vous avez participé à cette marche d'Ekta Parishad en novembre dernier en Inde avec Rajagopal, qui est très populaire en Inde.
Oui, dans tous les... Donc on traversait des villages et des villes en marchant et tous les gens arrivaient vers lui en lui mettant des colliers de fleurs autour du cou. Enfin oui, ils étaient... C'est un peu comme une star, quoi, quand on se balade avec lui en Inde.
Ça va être fort, cette marche. Quels souvenirs vous en gardez personnellement ?
Ce qui est frappant, c'est donc quand on a commencé la marche... Donc nous, on est habitués, entre guillemets, à des manifestations françaises. Et c'est vrai que quand on vient en France dans une manifestation, il y a pas mal de violences qui s'expriment, où les gens revendiquent ou à leur râle. Et là, quand on rentre dans la marche, les gens sont formés à la non-violence et à la non-violence intérieure. Donc ils marchent de façon très digne, de façon très ordonnée. Il n'y a pas de slogan, sauf à certains moments. Et donc, quand on rentre dedans, la première chose qui frappe, c'est le silence et le regard des gens qui marchent. Et on sent qu'ils n'ont rien à perdre. Et ça donne une espèce de force au groupe très ordonnée. On ne sait pas trop comment se comporter d'ailleurs au début. On essaye de se faire petit, un peu de se cacher.
Et en fait, c'est la masse. C'est là ça. Où on a des leçons à apprendre. C'est la masse de la mobilisation qui fait sa force.
Exactement. Et on sent que ce n'est pas une addition d'individualité qui marche, mais un groupe qui a dit qu'il marche ensemble et qui sait que sa force, c'est justement ce groupe.
Alors, vous avez fait venir des agriculteurs biologiques de Charente-Maritime, donc des agriculteurs français, là-bas, à cette marche en Inde, en partant du principe qu'il y avait des problématiques en commun avec certains agriculteurs indiens et aussi avec les sans-terre. Alors, comme ça, à froid, les liens ne sont pas évidents.
C'est vrai que le premier objectif, c'était de se faire rencontrer des producteurs français avec des producteurs indiens et ensemble de venir participer à la marche, pour qu'on se rende compte un peu que, finalement, on parle beaucoup du Nord et du Sud, comme deux endroits différents, mais finalement, il y a des enjeux qui sont assez similaires. Dans les pays du Sud, il y a 30 millions d'hectares de terres arables qui disparaissent chaque année, donc c'est énorme. Et en France, il y a 90% des fermes qui ont disparu durant les 50 dernières années. Donc, on le voit moins. C'est juste que dans un village, il y a trois fermes, deux fermes, une ferme, et que la ferme qui reste, elle grossit de plus en plus. On le voit moins, mais il y a une petite et moyenne agriculture en France, de type polyculture, qui est en train de disparaître finalement à grande vitesse. Et dans les pays du Sud, c'est exactement la même chose. On le voit plus, puisque finalement, ceux qui perdent leurs terres, ils rejoignent des bidonvilles. Donc, ils se lèvent, dans ce cas-là, pour essayer de se défendre. Mais donc, on se rend compte que finalement, il y a bien des enjeux similaires au Nord et au Sud, et que dans les deux cas, avec une agriculture de type biologique, et aussi en amenant les principes du commerce équitable et l'agroécologie, on peut arriver à faire autrement et à rendre cette agriculture pérenne. Et bien sûr, il y a aussi des différences. Il y a des gens qui vont nous dire « Oui, mais en France, ils ont une voiture, ils ont une télé ». C'est vrai, mais si on se place au niveau de la pérennité, la ferme, elle finit bien par disparaître. Donc, il se passe aussi la même chose. Et moi, ce que j'avais envie, parce que de par mon métier, donc j'ai été dans les pays du Sud, j'ai vu des agriculteurs, j'en ai rencontré aussi en France. Quand ils me parlaient de part et d'autre, je me disais toujours, mais ils me disent la même chose, ils défendent le même système de valeurs, ils défendent les mêmes idées.
Et d'ailleurs, vous avez pour objectif d'organiser une marche en France.
Oui, aussi, pour montrer qu'il y a aussi ces enjeux-là en France. Et je voulais justement que ces gens se rencontrent, pour qu'ils se rendent compte qu'ils défendent finalement des choses communes. Et quelque chose qui m'avait frappé, on avait fait venir un producteur éthiopien en France, qui est arrivé donc en Charente-Maritime. Il a regardé le champ et il a dit « mais je comprends pas, c'est ça de l'agriculture biologique ? Il n'y a aucun arbre ?» Parce que chez lui, sur sa parcelle de café, il a du café, plein d'arbres, des fruits. Et on lui parlait de polyculture en France et il s'attendait à voir quelque chose de florissant. Et là, il a vu un champ sans arbres. Et du coup, j'ai demandé à l'agriculteur français pourquoi il n'y aura pas des arbres? Il dit, c'est vrai, il faudrait qu'on y réfléchisse. Et c'est des choses toutes bêtes, finalement, assez pragmatiques, qui font que dans ces rencontres, se crée un échange et des énergies qui permettent d'innover aussi dans les deux cas.
C'est vrai que les paysages français ont perdu, dans la plupart des régions, non seulement leurs haies, mais aussi leurs arbres. Alors, pour revenir à cette histoire de la non-violence, qui peut être un levier, enfin, c'est ce que vous exprimez dans votre livre, avec tous les penseurs et les chercheurs que vous avez interviewés, un levier pour donc faire face peut-être aux enjeux du changement climatique ou de la perte de la biodiversité. L'idée, ça serait quoi? Qu'on se mette tous ensemble, un peu partout dans le monde, mais est-ce que c'est pas un peu utopique? Les gens, au quotidien, ont d'autres préoccupations, et tous ces enjeux-là semblent être inquiétants à long terme, pas dans l'immédiat, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à se mobiliser.
Oui, puis c'est vrai qu'il y a une différence entre les pays du Nord et du Sud, avant de revenir à la question, c'est que dans les pays du Sud, il y a des gens qui sont vraiment dans des situations extrêmement précaires, et qui n'ont plus rien à perdre, et qui vivent aussi des humiliations au quotidien, et du coup qui se lèvent pour venir récupérer ce qu'ils ont perdu. Dans nos pays, on a finalement une certaine, entre guillemets, assurance matérielle, qui peut-être nous endort aussi. Et finalement, dans les deux, on peut innover et créer autre chose. Alors que dans les pays du Sud, c'est vrai que ça se traduit par des grandes manifestations massives, puisque les gens se lèvent massivement. Mais finalement, il y a peut-être de nouvelles choses aussi à penser dans nos pays. Il y a déjà un changement finalement individuel, intérieur, ça qui appartient à chacun et à son intimité. C'est comment moi j'arrive au quotidien à résister au manque de sens dans nos sociétés, à me dire quelles sont les valeurs qui comptent pour moi. Est-ce que j'ai envie de défendre l'environnement? Est-ce que j'ai envie de mieux manger, etc.? Mais une fois qu'on a un peu changé son système de valeurs, la question, c'est comment on fait pour, ensemble, avoir un changement finalement plus collectif. Et là, moi, je crois à deux choses. La première, c'est qu'il y aura finalement une grande révolution silencieuse non-violente qui serait le changement de nos modes de consommation par des petits gestes pratiques au quotidien.
Donc, revenir quoi? Au boycott?
Ça peut être le boycott, mais aussi choisir des produits, et pour le coup, en ce qui me concerne, issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Si tout le monde choisissait des produits finalement plus respectueux de l'homme et de l'environnement, le monde, il changerait très rapidement, en un mois. Donc finalement, le monde est aussi le reflet de nos actes de consommation. Et donc, si on veut changer ça, changeons notre manière de consommer. Alors, ça a été dit et redit. Du coup, ça paraît pas toujours très concret, mais pour des gens comme nous qui bossons là-dedans, on voit très bien que les produits qu'on consomme supportent directement un certain modèle du monde.
Alors, c'est quand même en train d'évoluer, mais ça évolue, c'est vrai, extrêmement lentement. En tout cas, dans votre livre, vous donnez la parole notamment à Pierre Rabhi, qui explique que, par exemple, entre l'eau et la roche, finalement, le plus solide n'est pas celui qu'on croit, puisque à long terme, c'est l'eau qui creuse la roche. C'est peut-être ça qu'il faut retenir comme image.
C'est une belle image. Et c'est vrai qu'au-delà de nos changements de mode de consommation individuelle, moi je suis persuadé qu'il faut aussi créer des changements collectifs. Et nous, vous parliez tout à l'heure de la marche en France, et ce qu'on devrait faire, c'est faire une marche des habitants des villes, des cités, vers les producteurs, en l'occurrence de Charente-Maritime, pour montrer qu'aujourd'hui, il y a des initiatives territoriales et régionales qui fonctionnent et qui sont vraiment nouvelles. Et là, c'est pour mettre en avant notamment une idée qui est de dire, là où il y a des producteurs en agriculture biologique, on met un outil de transformation pour transformer les produits sur place, jusque finalement un magasin de produits finis, pour rendre finalement du bio de qualité nutritive et gustative importante, moins cher à la fin. Et donc ça, c'est de nouvelles formes de choses qu'on peut entreprendre dans nos pays, qui s'appuient sur un nouveau système de valeurs et qui peuvent permettre finalement aux gens de mieux consommer et mieux vivre. Et je pense que si on organise une marche, ce serait plutôt pour dire on peut créer du lien et montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent et qu'il faut les soutenir.
Alors ces initiatives citoyennes sont certes dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans plein d'autres, hein, notamment je pense à l'énergie, à l'habitat. Tout cela, on en parle régulièrement dans C'est pas du vent. Merci beaucoup Laurent Muratet d'être passé dans l'émission. Je rappelle le titre de votre livre, publié avec Étienne Gonineau. Ça s'appelle Un nouveau monde en marche vers une société non violente, écologique et solidaire aux éditions Yves Michel. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Demain, nous vous ferons découvrir un bel exemple de solidarité non violente qui bouleverse actuellement l'agriculture indienne, le réseau Onibi Network. D'ici là, prenez soin de vous et à demain, même planète, même heure.